que ces manières de fonctionner, elles créaient le problème. Et pour accepter que, déjà, il faut prendre soin de soi. Les émotions, c'est important. Et non, c'est pas la honte. C'est pas la honte d'avoir un état dépressif.
Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression. C'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement tous, je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, chers proches, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti. Hey, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts pour l'épisode du jour. Oui, vous avez bien vu, l'épisode du jour est très très long. Il est bien plus long que ce que j'ai l'habitude de faire, tout simplement parce que on raconte une histoire. Marianne est une auditrice de Raconte-moi ta dépression. Et donc du coup, elle a accepté ma demande de pouvoir être interviewée et de nous raconter son histoire. Je vous laisse donc découvrir l'histoire de Marianne, qui vraiment est une histoire pour moi vraiment très touchante. Vous vous reconnaîtrez dans cette histoire et vous verrez à quel point elle s'est battue face à sa dépression. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu avoir sur le podcast, des interviews. Donc vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de vous présenter celui-ci. Ok, il est un petit peu long. Moi je dis, soit vous l'écoutez que d'un coup, soit vous coupez plusieurs fois, vous faites comme vous le souhaitez, mais en tout cas je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Allez, je vous laisse avec l'interview. Merci Marianne d'avoir accepté l'invitation et du coup de te prêter au jeu du coup de l'interview. Alors moi je vais arrêter de parler et je commence à te poser quelques questions. Alors d'abord la toute première question, depuis quand vis-tu avec la dépression ?
Donc déjà, je voudrais te remercier de m'avoir invité sur ton podcast. Je voudrais juste dire deux mots d'abord sur comment je me suis retrouvée à faire cet entretien avec toi.
Vas-y, je t'en prie.
D'accord. Déjà, en fait, je voulais dire surtout que je suis très fan de ce que tu fais. J'aime beaucoup ton podcast. Je trouve que c'est vraiment très intéressant ton approche de la souffrance psychique et j'ai pas vu beaucoup d'initiatives dans ce genre. Et donc en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'une fois tu avais fait un épisode sur la pensée positive et j'avais...
Oui, c'est vrai.
Ouais, et moi j'avais pas trop...
C'est vrai.
J'avais pas, par rapport à mon vécu, ce truc de la pensée positive, j'étais pas très d'accord. Et donc, je m'étais permis de t'écrire pour te faire un feedback, en fait. Et à mon heureuse surprise, tu m'avais répondu « Ah, mais c'est très intéressant. Est-ce que tu voudrais en parler ?» Parce que, voilà, et c'est vrai que ton podcast s'appelle « Parle-moi de ta dépression ». Et donc... J'étais étonnée, mais en même temps, j'étais contente parce que je trouve que c'est exactement ça qui est précieux avec ce que tu fais, de donner la parole à d'autres personnes. Et moi, c'est vrai que j'écoute pas mal de podcasts et j'aime bien écouter les autres, en fait. Ça m'a apporté beaucoup, notamment les entretiens que tu fais, que je trouve vraiment intéressants. Et ça m'a donné aussi envie, moi, du coup, parce que j'ai compris, en fait, que les gens le faisaient. Ben, c'est bien pour les gens qui écoutent, mais c'est bien pour eux aussi. Et donc, ça m'a donné envie de franchir le pas. Et donc, je te remercie de me donner l'occasion, d'autant plus que sur la question de la souffrance psychique, c'est vrai qu'on entend beaucoup, tu sais, toujours les experts, et notamment dans le domaine médical, les gens qui s'expriment sur ce sujet, c'est toujours ceux qui savent, de par leur, entre guillemets, science, et on entend rarement... les gens qui ont une expérience, quand on les entend, c'est vraiment des témoignages. On les entend jamais comme personnes qui ont aussi un savoir et qui peut être utile aussi aux autres. Voilà. Donc, bon, je voulais juste dire ça parce que.
Merci, c'est gentil. Merci beaucoup.
Et donc, pour répondre à ta question, depuis quand est-ce que je vis avec la dépression ?
Alors, ma fameuse question. Oui.
Donc, bon, moi, j'ai 42 ans et donc ça fait très longtemps que je vis avec la dépression, puisque si on parle de diagnostic, bon, après, je pense que je reviendrai là-dessus puisque je ne suis pas très fan de la notion de diagnostic, mais si on parle de diagnostic, mon diagnostic de dépression, le premier a dû être posé quand j'avais autour de 24 ans, quelque chose comme ça.
D'accord.
Donc, ça, c'est en fait... voilà, je suis allée chez mon généraliste à l'âge de 24 ans, je savais à peu près ce que j'allais lui dire, je savais aussi à peu près ce qu'il allait me dire, et donc je suis ressortie de son cabinet avec un diagnostic de dépression et une ordonnance d'antidépresseur. Donc peut-être que je peux dire deux mots sur le contexte de ça. C'est que en fait à cette époque-là, il y a un contexte qui fait que en fait j'ai vraiment sombré à ce moment-là, et ça a été un épisode de dépression sévère qui a duré plusieurs années, puisqu'en fait j'en suis sortie au début de la trentaine, fin de la vingtaine, mais vraiment début de la trentaine. Et ça s'est produit à un moment où déjà j'ai eu une rupture sentimentale, je terminais ma vie étudiante, je commençais à travailler. Mon frère a fait à cette époque-là un épisode délirant et a été hospitalisé, était vraiment gravement malade, et j'étais un peu seule avec tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, maintenant... Et je pense qu'à l'époque, j'aurais été incapable de le dire ou de le voir ou de le comprendre. Mais maintenant, avec le recul, je sais que, en fait, la dépression avait commencé bien avant. Et je pense que mes premiers épisodes dépressifs, j'ai commencé à les avoir autour de l'âge de 16-17 ans. Simplement, ça avait d'une part des formes différentes de ce qui s'est passé après. Donc autant la grande dépression, enfin voilà, la dépression vraiment sévère, c'était le classique, enfin le classique de quand on parle de dépression, c'est vraiment le tableau classique de le désespoir, l'épuisement, les envies de mourir, le ralentissement physique. Et alors que je pense que quand j'étais plus jeune, ça se manifestait plus sous forme d'épuisement complet, en fait, dormir tout le temps, de pas pouvoir bouger. Mais je pense aussi que c'était parce que moi-même, j'avais tellement pas idée de ce que ça pouvait être.
Mais oui.
Que du coup, en fait, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que moi, j'allais sans arrêt chez le médecin, mais ça ne me serait jamais venu à l'idée de dire au médecin, je suis triste, je me sens seule. En fait, pour moi, parler de mes émotions, c'était complètement hors sujet. Donc, j'allais le voir et je lui disais, j'arrête pas de dormir, je suis épuisée. Et puis, il me faisait faire des analyses, il n'y avait rien. Et puis, à chaque fois, il me renvoyait chez moi. Et donc ça a duré en fait très longtemps, avec des épisodes qui du coup devenaient de plus en plus sérieux à chaque fois. Et jusqu'à donc mes 25 ans, où là, d'une part, c'est devenu vraiment, c'était un autre niveau, mais aussi, ce qui s'est passé, c'est que comme mon frère avait été hospitalisé, donc en fait j'avais beaucoup traîné finalement... dans des services de soins psychiatriques. J'avais accompagné mon frère en CMP. Je l'avais aussi à un moment où je l'ai gardé chez moi parce qu'il risquait de faire des tentatives de suicide, donc c'était moi qui le gardais.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Et du coup, en fait, j'ai découvert un nouveau monde à ce moment-là. C'est que je me suis rendu compte que, un, il y avait un sujet santé mentale, que deux, il y avait des personnes qui s'en occupaient, qu'il y avait des endroits où on pouvait aller. Et en fait, moi-même, à ce moment-là, il m'est arrivé ce truc qui, je pense, doit arriver. Enfin, je ne sais pas si toi, c'est arrivé, mais je pense que toute personne qui a un épisode dépressif connaît ça, je crois, qui est qu'à un moment, tu vois la liste des symptômes et tu dis « Ah, mais ça, c'est moi. »
Clairement.
Mais c'est ça mon problème, en fait. Et donc, voilà. Et donc là, c'est là que j'en arrive à cette consultation de généraliste. Et ensuite, donc, comme je te disais, ça a duré un certain nombre d'années qui, aujourd'hui, pour moi, sont un peu comme un trou noir. J'ai assez peu de souvenirs de cette période. Et puis, au début de la trentaine, ça a commencé à s'améliorer. Mais encore aujourd'hui, finalement, je pourrais pas dire que pour moi, la dépression est quelque chose du passé. J'ai encore des épisodes. Et ce que j'ai aussi, c'est de l'anxiété. Parce que maintenant, avec le recul, je pense qu'en fait, c'est l'anxiété chez moi qui a mené.
D'accord, ouais. C'est la petite sœur, hein. Elles sont sœurs. L'anxiété, la dépression, elles sont sœurs, hein.
C'est la grande sœur, je pense, oui.
La grande sœur, du coup.
Oui, tout à fait.
Ok. D'accord. Et du coup, quels ont été pour toi tes symptômes, la liste pour toi qui disait « ça, c'est moi, ça ».
Alors, donc justement, moi, c'est vrai que je n'adore pas parler de symptômes et de diagnostics, justement, parce que maintenant, j'ai pris beaucoup de recul avec l'idée de voir la souffrance psychique comme pathologie. Mais ça ne veut pas dire que je pense que ce n'est pas une question intéressante. Et donc, notamment dans la perspective d'échanger avec toi, j'ai fait une liste, figure-toi.
Ah, ça, c'est cool, ça.
Bah, c'est cool, sauf que la liste, elle fait en fait une page.
Ah, ouais, bah alors ça, bah, bienvenue dans la liste des longues pages.
Bon, je vais pas, évidemment, pas lire cette longue liste, mais donc pendant cette période vraiment de dépression sévère, ça a été, je pense, pour moi, le truc qui caractérise le plus la dépression, c'est l'absence totale de désir, l'envie de rien, et elle n'a aucune motivation. Mmh. Avec même une dimension physique, c'est-à-dire ne plus pouvoir bouger, en fait. Et même avoir mal partout dans mon corps, avoir des courbatures, avoir froid. Et évidemment aussi, la dimension donc psychologique, c'est le désespoir, c'est-à-dire la perte totale d'espoir. C'est même pas la perte de motivation, quoi. C'est le désespoir.
C'est pas la même chose, hein.
Non, c'est pas la même chose. Et donc, vraiment, cette tristesse extrême, les pensées très négatives sur moi, de carrément de haine de moi-même, en fait. Et du coup, tout ça, très rapidement, la non-envie de vivre, puis l'envie de mourir, puis l'envie de me tuer, quoi. Donc, moi, j'ai jamais fait de tentative de suicide, mais bizarrement, l'envie de mourir et le désir de suicide est quand même quelque chose avec lequel j'ai vécu et je vis encore très régulièrement, il faut reconnaître, depuis très longtemps. Donc, mais cela dit, il y a eu aussi... Et c'est ça que je voulais dire par rapport aux symptômes, c'est que en fait ça c'est l'état dépressif sévère que aujourd'hui j'ai plus beaucoup quand même, il faut reconnaître, ou en tout cas qui dure pas longtemps.
Mais il y a moins longtemps.
Ouais, beaucoup moins, mais il y a plein d'autres choses. Et dans ces autres choses, il y a notamment tout ce qui concerne l'anxiété. Donc la peur d'être avec les autres, la difficulté d'être, par exemple, parfois ça m'arrive de sortir, de prendre le métro et en fait je suis obligée de rentrer chez moi parce que
c'est trop.
Ouais, ça va pas du tout, je me sens tellement, et puis il y a cette notion de décalage aussi, de se sentir tellement déconnecté du monde extérieur, d'être totalement déphasé en fait, de voir les gens et de les voir comme dans un... comme dans un film dont je ne ferais pas partie, quoi.
Comment je me retrouve dans tes propos? Ah ouais, ah oui, non, c'est très, c'est franchement, c'est vraiment juste ce que tu dis. Enfin, c'est juste, moi, je pense la même chose. J'ai eu ces difficultés là aussi, ouais.
Donc il y a énormément de choses qu'on n'associe pas aussi forcément à la dépression, enfin au tableau,
Ouais.
enfin voilà, au bon vieux DSM, que pourtant je pense beaucoup de personnes ont, et notamment des personnes qui ont des épisodes dépressifs. Moi j'ai aussi eu j'ai beaucoup de problèmes de confusion. Parfois je me réveille, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas quel jour on est, des troubles de l'attention.
Voilà, oui, la
Des
concentration.
difficultés, exactement, des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire aussi. J'ai la
Ouais.
mémoire, notamment la mémoire court terme, qui est vraiment bousillée. Si tu me demandes ce que j'ai fait hier, je vais souvent être incapable de.
La même chose. Moi, j'ai gardé ça aussi. La mémoire, c'est mon mari, ma mémoire. C'est pas moi. Je peux pas, je me rappelle pas des choses.
Ben voilà. Et puis souvent cette impression d'être aux pâquerettes, quoi, de rien comprendre de ce qu'on me dit. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que il y a donc il y a des symptômes qui sont visibles et il y en a d'autres qui sont
Qui sont
invisibles
invisibles.
pour soi et pour les autres.
Exactement.
Et moi, je peux donner deux exemples de ça. Il y en a un qui est que, donc, par exemple, j'ai beaucoup un peu moins maintenant, mais de cyclothymie, c'est-à-dire des changements d'humeur qui peuvent être soit très rapides, soit très lents, au contraire. Et donc, mon ex, souvent, les voyait avant moi parce qu'il remarquait que d'un coup, je bougeais plus, je devenais très silencieuse. Et donc, ça, c'est des choses dont moi, je ne me rends pas compte. C'est les autres qui peuvent s'en rendre compte. Un autre exemple, c'est quand ça c'était pendant cette période un peu noire, c'est un des seuls souvenirs que j'ai. Un jour, j'étais arrivée au travail et puis je vois un collègue qui me dit, mais je t'ai vu dans le métro ce matin. Et bah, moi, je ne l'avais pas vu, donc je lui ai dit, je t'ai pas vu. Et là, il m'a dit, mais ouais, bah tu regardais pas, donc possible, il n'y avait pas. Il y avait du monde et il m'a dit non mais tu t'intéresses au gaz ou à GDF ou tu as une passion pour ça?
Pourquoi?
Donc je comprenais même pas de quoi il me parlait et puis là il m'a dit mais parce que tu fixais une pub, t'as fixé une pub de GDF pendant tout le trajet et j'ai jamais vu quelqu'un regarder une pub comme ça avec autant d'attention quoi.
Une pub GDF. Ah, t'as
Ouais.
des choses que tu veux nous dire du coup sur sur le GDF?
Donc voilà quoi, ça c'est typiquement le genre de truc que moi je t'aurais même jamais décrit ça comme un symptôme puisque je m'en serais même pas rendu compte. C'est en fait dans le
Oui.
regard de l'autre que tu vois qu'il y a un problème. Et donc par rapport à ces symptômes aussi, il y a des choses qui sont directement très handicapantes et qui ont un impact important, moi. Par exemple, j'ai eu un problème, enfin j'ai même encore un problème d'hypersomnie, ce qui est paradoxal parce que d'un côté je dors mal, mais j'ai des endormissements incontrôlables. Et notamment à cette époque dont je viens de te parler, ça m'arrivait beaucoup. Donc j'étais journaliste, j'allais en conférence de presse, je m'endormais pendant le travail, je m'endormais, je devais tout le temps lutter comme ça contre le sommeil.
Ah
Et donc mes collègues, parce qu'on était en open space, et donc mes collègues m'avaient en fait repéré. Et donc ils se moquaient de moi parce qu'ils guettaient le moment
tu piquais du nez, quoi.
où je piquais du nez, parce que j'en pouvais plus de lutter. Donc fatalement, il y avait un moment où je m'endormissais comme ça. Et donc ils se moquaient de moi parce que voilà. Mais c'est surtout que d'un seul coup, je me réveillais, donc on avait le bouclage qui était vers 17h, 18h, 19h, et en fait, une heure avant, d'un seul coup, d'un seul, j'ouvrais les yeux comme ça, ping, je me réveillais, et là, je faisais ce que j'avais à faire. Donc, c'était vraiment très, très. Enfin, c'est un truc très curieux, ça m'arrive encore, moins maintenant, mais ça m'arrive encore. Et ça, c'est des choses qui sont, pour le coup, extrêmement handicapantes quand on n'arrive pas à
Mais
sortir de
bien
son lit le
sûr,
matin.
bien sûr.
Mais donc voilà, il y a des choses qui sont évidentes comme ça, qu'on peut voir soi-même et qui sont très handicapantes. Et puis il y a des choses en fait qui ont aussi un impact. et qui limite beaucoup notre manière de vivre et qui, moi, ont eu des conséquences très importantes, mais que je ne vois pas, en fait, forcément. Ouais.
On ne se rend pas compte de tout ce que... Il y a une grosse partie, comme tu dis, qui est invisible, quoi. Et même nous, on ne s'en rend pas compte. Les autres, peut-être, peuvent le voir. C'est eux qui vont peut-être nous dire. Mais ce n'est pas évident pour nous de nous en rendre compte. Moi, c'était l'agressivité. Je ne me rendais pas compte que j'étais agressive.
Ah, oui,
et c'est parce que... Et en plus, bon, mon conjoint, lui, il était habitué. Il savait que c'était la dépression, sans que je lui en parle. Et en fait, je me suis retrouvée en famille. Et ma mère m'a regardée surprise en me disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es agressive comme ça ?» Je lui dis, mais je suis pas agressive. Et du coup, bon, elle l'a pris comme, voilà, j'étais en train d'essayer de me justifier. Donc, c'est la maman, elle a commencé un peu à me disputer comme une enfant. Mais en fait, ça m'a été mon choc parce que pour moi, j'étais pas agressive. J'avais gardé ça un peu toute la soirée. Et j'en ai parlé à mon mari, il me dit, mais non, Manuela, il me dit, si, des fois, ma chérie, t'as été agressive. Mais il dit, je sais que c'est la dépression. Il dit, j'ai regardé. Parce que sinon, voilà, pourquoi une personne, elle est agressive comme ça? Il n'y a pas de raison. Et ouais, non, franchement, voilà, les symptômes, on s'en rend pas compte. Voilà, j'ai vécu aussi la même chose que toi sur ce point-là. Les surprises, comme je les appelle. Des petites surprises.
Bah ça, effectivement, c'est un très bon exemple. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, je continue, surtout quand j'écoute des gens parler, etc., je continue d'en identifier des symptômes. Et par exemple, l'autre jour, j'écoutais quelqu'un qui parlait de... Donc j'ai écouté des personnes qui parlaient de syndrome post-traumatique et des questions d'hypervigilance. Et je me suis totalement reconnue là-dessus. Et donc c'est pour ça que j'en viens à la question du diagnostic. Parce que la question du diagnostic, quand on regarde tous les symptômes, en tout cas moi quand je regarde cette feuille de symptômes que j'ai eu ou que je peux avoir, en réalité, bah, je me retrouve... dans l'anxiété sociale, dans l'hypersensibilité, dans le TDAH. À un moment, on s'est posé la question avec mon psychiatre de la bipolarité. Je me demande parfois si je ne fais pas de la dissociation, de la dépersonnalisation. Enfin, tout ça pour dire...
Il y a beaucoup de choses, en fait.
Il y a beaucoup de choses. Et du coup, je pense que les... Enfin, que le DSM, pour moi, il a vraiment ses limites. Parce que, en fait, quand on regarde vraiment les différentes pathologies et les différents symptômes, on se rend compte que, déjà, en fait, on retrouve un peu les mêmes trucs de partout, notamment ce qui sont les symptômes de la dépression. Mais surtout, ça peut concerner des personnes qui sont dans des situations complètement différentes. Et ça n'a rien à voir d'avoir des états dépressifs comme moi liés à l'anxiété que de personnes. Je fais partie d'un groupe Facebook où de personnes un peu, enfin de personnes, c'est un groupe de personnes neuroatypiques, ça s'appelle. Mmh. Et donc dans ce groupe, il y a des personnes qui, il y en a pas mal. Donc il y a énormément de cas de souffrances psychiques très graves. Vraiment des personnes qui ont des situations qui sont très difficiles. Et là-dedans, il y a beaucoup de cas de personnes qui ont vécu des incestes, des agressions sexuelles, des choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que je... Ça, c'est important pour moi de le dire parce que je ne veux pas dire que je suis contre forcément un diagnostic. Moi-même, quand on m'a posé mon diagnostic de dépression... quelque part, ça a un côté un peu rassurant de se dire ah,
il y a un nom à quelque chose.
Il y a un nom, mais j'existe en fait, j'existe déjà,
oui,
voilà. Et puis j'ai un vrai problème et peut-être donc, mais simplement, je pense que c'est quand même un dénominateur commun qui est minime et que après, ce qui est important, c'est plus que les symptômes, c'est la réalité de chaque personne à chaque moment. Et qu'un même symptôme...
Je suis trop d'accord avec toi. Tu vois, bon, ce que vous ne voyez pas les auditeurs, c'est mes gestes, mais je suis tellement d'accord avec toi. Tiens, on parlait du DSM, c'est le manuel diagnostique statistique de troubles mentaux, un truc comme ça. C'est un manuel qui donne la liste des symptômes de la dépression. Mais quand je dis... Bon, moi, c'est un truc que j'aime dire, c'est que chaque dépression est unique. On peut pas dire que la dépression d'une personne, c'est la même, comme tu parlais des personnes neuroatypiques. Voilà, on peut... voilà, comme il y a déjà eu des personnes qui souffrent de troubles anxieux qui sont venues parler un petit peu sur le podcast, c'est pas pareil, mais ça ressemble. Donc on peut pas se... Je comprends ce que tu veux dire et je trouve que c'est important que tu en parles, mais c'est que voilà, chaque dépression est unique, on peut pas cataloguer non plus tout dans la même situation, et c'est une détresse psychique. Voilà, la dépression est une détresse psychique avec ses propres manifestations, ses propres symptômes, et c'est là où il faut vraiment... Voilà, la case, elle est, certes, elle est là, mais bon... je comprends très bien ce que tu veux dire. En tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour prendre soin de toi, du coup, Marianne, c'est mieux Marianne. Vas-y, je t'en prie.
Alors, je pense que moi, mon histoire, c'est justement une histoire de non-soin pendant très longtemps. C'est-à-dire que, comme je t'ai expliqué, de l'âge de 16 ans à l'âge de 24 ans, en fait, j'ai subi une aggravation, une récurrence des états dépressifs vraiment dans mon coin sans avoir aucune idée de ce qui m'arrivait. Et à partir de mes 24-25 ans, je me suis retrouvée dans une démarche de médicalisation qui était un peu la seule qui, à ce moment-là, était à ma disposition, puisque en fait, en plus, si on se remet au début des années 2000, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas du tout le même accès à l'information qu'il y a aujourd'hui, en tout cas.
Et il est récent, cet accès à cette information, je tiens à préciser, pour l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est récent.
Absolument. Donc je pense, et je pense que c'est une super chose, qu'aujourd'hui... quelqu'un qui souffre a plus facilement accès à différentes ressources. Mais moi, à mon époque, en tout cas, moi, dans la situation où j'étais, il n'y avait rien, parce que ma famille, je ne pouvais absolument pas leur parler. Autour de moi, j'avais peu d'amis et je me suis isolée, en fait, avec la dépression. J'avais tellement honte.
Ouais, on s'isole.
J'avais tellement honte, j'étais tellement dans la honte et la culpabilité.
Pourquoi la honte ?
La honte, parce que pour moi, c'était vraiment... Moi, j'ai vraiment été éduquée avec cette idée que on parle pas de soi. Parler de soi, c'est vraiment quelque chose de nombriliste et de pas bien. Et surtout si c'est pour parler de ses émotions, on parle pas de ses émotions... Et surtout, on ne montre pas ses fragilités, en fait. Donc, il y avait vraiment toujours cette idée chez moi que les fragilités, c'est la honte. Mais la honte à tel point que j'avais honte et que j'avais honte d'avoir honte, quoi.
Oh là là, ouais.
C'était assez fort et j'étais... Donc, j'avais tellement appris depuis... Je pense d'ailleurs que c'est probablement ce qui a causé mon anxiété, ou en tout cas en partie, mais j'avais tellement appris à refouler toute émotion que du coup, j'arrivais même pas, et encore aujourd'hui, ça m'arrive, cette dissociation, où quand je suis dans une situation difficile, je suis tellement incapable de ressentir des émotions, j'ai tellement peur que j'ai un espèce de réflexe de blocage automatique qui se met en place. C'est-à-dire qu'en fait, je ne ressens rien. J'ai un détachement total et je ne ressens rien parce que je suis dans ce truc du contrôle de « je suis forte, je ne suis pas fragile », etc. Sauf que, oui, évidemment, ouais, après, ça se passe très mal. Donc, moi, j'ai mis vraiment énormément de temps à sortir de ces choses-là. J'étais vraiment dans le truc de me... J'avais quasiment une double vie, en fait. C'est-à-dire mon visage normal que les gens voyaient et puis... cette personne qui était moi-même, qui était fragile et qui était blessée, et je me cachais, en fait, je me planquais. Donc du coup, j'avais vraiment quasiment aucune vie sociale, et j'étais très seule avec ce truc-là. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre, en fait, que ces manières de fonctionner, elles créaient le problème. Et pour accepter que, déjà, il faut prendre soin de soi. Les émotions, c'est important. Et non, c'est pas la honte d'avoir un état dépressif. Mais même aujourd'hui, tu sais, Donc, je pense que j'en parle quand même plus facilement, mais ça reste quelque chose, je trouve, compliqué à assumer. Alors, pas avec des gens comme toi, évidemment.
Ouais, mais... Ouais.
Mais voilà, et je pense que c'est quelque chose dont tu parles aussi dans ton podcast.
Bien sûr.
D'une manière plus générale, ça reste compliqué parce que finalement, je pense que ce truc que j'ai eu dans ma famille, bon, c'est vrai qu'ils en tenaient vraiment une grosse couche, mais en fait, c'est un truc qui existe dans la société.
Et c'est
donc,
ça.
Et c'est là que j'en reviens un peu à ce que je te disais avant sur mon histoire de diagnostic, parce que en fait, pour moi, le problème d'être dans une approche médicale, c'est pas de ne pas reconnaître les difficultés que ça cause. Parce que moi, la première, je peux parler de handicap et je peux dire que j'ai eu une souffrance psychique qui a été réellement handicapante. Et je comprends totalement quand je pense aux personnes dans mon groupe Facebook qui vivent des choses où il y a une souffrance qui, effectivement, devient quelque part comme une maladie parce que en fait, elles ne peuvent pas fonctionner. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler, par exemple.
Mais moi, j'ai pas pu travailler pendant presque 6 mois et demi, 1 an, parce que c'était ma dépression, était sévère. C'était handicapant, hein. Je pouvais pas sortir de mon lit. Hein.
Absolument. Donc moi, je veux dire, loin de moi l'idée de nier ça. Et je comprends même qu'on puisse prendre des médicaments. Moi, j'ai pris des médicaments pendant de longues années. J'ai aucun problème avec les gens qui prennent des médicaments.
Traitement, voilà,
si ça marche pour eux, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème avec le fait de réfléchir à la souffrance psychique en la médicalisant, en faisant un problème de pathologie, c'est que du coup, en fait, on ne pose pas toutes les questions qui ont besoin d'être posées. Parce que la réalité, moi maintenant, c'est ça un peu la réflexion que j'ai eue, c'est qu'on est dans une société qui crée la souffrance.
Mais bien sûr.
Et en fait, c'est la société qui nous rend malade. C'est cette société validiste, voilà, par exemple, ces familles toxiques dans lesquelles moi j'ai grandi, ce modèle aussi social qui fait qu'on ne prend pas soin de nous-mêmes. En fait,
exactement.
On apprend à soigner son alimentation. Faut pas, voilà, tout le monde nous bassine, il ne faut pas manger gras, il ne faut pas manger sucré, il ne faut pas nana. Mais personne, ou en tout cas, je pense pas beaucoup de familles, et même à l'école, etc., on n'apprend pas aux gens simplement à prendre soin d'eux-mêmes.
Mais tellement. Tu vois, j'ai fait un post Instagram là, il n'y a pas longtemps. On dit qu'une personne sur 5 souffre de dépression dans le monde. Si c'est une personne sur 5, c'est que c'est un membre de votre famille. Si vous avez juste, il y a 3 enfants, et c'est les classiques, la famille en France, c'est 2 enfants et un parent. Tu ne te rends pas compte, une personne sur 5 souffre de dépression, et aujourd'hui, on ne sait pas comment faire, on sait pas, on se plante, on dit des mauvais mots, on se dit bouge-toi, va faire du sport, prends des vacances, alors que c'est comme tu dis, c'est vraiment là. J'avoue que je suis intervenue, mais je pouvais pas. Là, moi, c'est le cœur qui parle là, tu vois. Mais vraiment, je me dis, c'est pas possible. Je suis tellement d'accord avec toi, quoi. La société, c'est une société où on vit cette souffrance. Ben, personne ne fait en sorte que on puisse l'éviter. À des jeunes filles, regarde, toi tu me dis entre 16 et 24, mais je peux pas te dire le nombre de jeunes filles, moi, qui viennent discuter avec moi pour me dire clairement j'ai un mal-être, et je leur dis mais il faut aller voir les parents, mais et les parents sont désespérés parce qu'ils savent pas quoi faire, mais on devrait nous éduquer pour savoir quoi faire. Et là, c'est mon petit côté un peu Zorro, là. Là, je sors le côté Zorro, parce que c'est ce que je pense vraiment, quoi. Moi, je pense la même chose que toi, que là, la société, il faut qu'elle apprenne, elle nous apprenne à prendre soin de nous psychiquement.
Et donc, tu as complètement raison, parce que du coup, ce que je trouve terrible, c'est que cette société qui est en fait celle qui nous rend malade, et quand je parle de société, je ne suis pas dans un propos comme ça... abstrait, universel, je suis vraiment en train de parler des sociétés voilà, telles qu'on les vit aujourd'hui, c'est-à-dire ces sociétés occidentales dans des pays soi-disant riches, avec l'organisation de la société qu'il y a dedans, l'organisation de la famille qu'il y a dedans, et donc ce paradigme validiste qui est l'idée que tout va bien, donc en fait la société d'un côté elle te rend malade. Elle crée cette souffrance parce qu'elle t'apprend pas à te soigner, à prendre soin de toi. Et ensuite, bah voilà, il y a toutes les questions de racisme, les inégalités sociales, la misogynie, tout ça vient créer des souffrances personnelles. Et ensuite, en fait, c'est toi qui es malade, c'est toi qui n'es pas normal.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Tu vois ? Donc, en fait, c'est ça, ma critique de la médicalisation. C'est de dire, non, en fait, les personnes qui sont dans mon groupe Facebook, elles sont pas malades. Au contraire, c'est sain. Quand tu as subi un inceste, eh ben, c'est sain.
C'est normal que ce soit dur. Ben oui, mais oui, c'est normal. Il n'y a pas à se justifier, en fait. Il n'y a aucune justification possible.
Exactement. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps, en fait, pour être capable de réfléchir à ces choses-là et de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que la souffrance psychique, d'où ça vient, moi, dans mon cas, d'où c'est venu. Donc, pendant longtemps, j'ai eu assez peu d'aide. Je pense que, il y a une chose qui m'a marquée, ça a été un bouquin que j'ai lu. C'était une des seules ressources qui était accessible pour moi. C'était un livre qui s'appelle « Ma folie ordinaire » de Émilie Durand, où elle, justement, c'est quelqu'un qui a eu un parcours de souffrance psychique extrêmement aigu, qui a commencé très tôt avec un problème d'anorexie. Et donc, elle raconte ses hospitalisations, etc. Et ça, vraiment, pour moi, ce livre, ça a été... en fait, je me reconnaissais, contrairement à quand j'allais chez le psy, c'était une torture pour moi, le psy, au début, parce que je débarquais, et puis il y avait cette horrible question-là de « Alors, comment ça va ? Qu'est-ce que vous racontez ?»
Moi, ça y est, j'étais bloquée, je ne pouvais
plus parler. Donc, au contraire, dans le bouquin d'Émilie Durand, là, vraiment, je me suis totalement reconnue. Et en fait, elle mettait des mots sur plein de choses que moi, je vivais, mais que j'étais incapable de penser à ce moment-là. Et ensuite, je pense que ce qui m'a aidée aussi, ça a été des relations avec d'autres personnes et de voir, par rapport à ce que je te disais, notamment sur la question des émotions, de la honte, de la culpabilité, de regarder d'autres personnes et de voir... j'avais notamment une amie qui avait aussi des épisodes dépressifs, mais elle était vraiment capable de parler de ce qu'elle vivait et elle n'avait pas honte de montrer ses fragilités. Et pour moi, ça a été une source d'inspiration, en fait.
Elle t'a aidé, du coup.
Ben oui, parce que du coup, je voyais qu'elle avait raison. Je voyais qu'elle avait raison et que c'était possible. Donc, du coup, pour moi, c'était vraiment important de... Déjà, ça me permettait de réfléchir à toutes ces questions et puis aussi, ensuite, d'avoir un modèle pour faire les choses autrement.
Bah oui, c'est bien. Et du coup, est-ce que tu as réussi à trouver ton équilibre avec ta dépression ?
Alors, la question de l'équilibre, en fait, je pense que... Aujourd'hui, et c'est un peu en rapport avec le fait d'avoir pris de la distance avec cette idée de pathologie et de diagnostic, c'est que je ne me pose plus cette question. En fait, je ne vois plus les choses comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai moins de souffrance qu'à une certaine époque, et puis surtout, je sais mieux gérer ça, bien sûr.
C'est ça, en fait.
Mais aussi, je pense qu'une grande différence, c'est que je raisonne plus en fait en termes de normalité et de guérison. Déjà parce que ça fait tellement longtemps que moi j'ai plus. Je pense peut-être quand j'avais 20 ans, j'avais l'illusion d'une période où je me disais. Et d'ailleurs, je me souviens en fait quand j'allais voir mon psy au début, je décrivais ça comme un bug. En fait, je me disais, oh là là, j'ai bugué comme un programme. Un logiciel qui serait mis à déconner, quoi. Parce que j'avais tellement pas de compréhension de ce qui m'arrivait que je le voyais comme ça. Je me disais, mais d'un seul coup, je me mets à déconner, je comprends pas ce qui se passe, etc. Bon, maintenant, avec le recul, je vois d'où les choses viennent, je vois comment elles sont créées, je vois que c'était un peu inévitable que ça se passe, comment ça s'est produit. Et du coup, je me dis, voilà, c'est ma vie, c'est moi, ça fait partie de moi.
Ouais, c'est ça.
Donc, il n'y a pas vraiment de guérison ou de normalité à penser, en fait, les choses. Et donc, je pense que ce qui a vraiment changé, c'est le vécu. C'est-à-dire que quand, j'ai eu mes premiers épisodes dépressifs, déjà, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais terrorisée. Pendant longtemps, j'ai vécu dans la terreur des épisodes dépressifs. Quand je sentais que ça venait...
C'est ça, t'as peur de la rechute, quoi.
C'était l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, quoi. Et puis, j'étais à la fois dans le rejet, c'est-à-dire je ne voulais pas que ça m'arrive. Mais en même temps, quand ça venait, je le subissais. Et puis, j'avais honte, quoi. Alors que maintenant, c'est vrai que ça a complètement changé. D'une part, je comprends, je sais, en fait, ce qui se passe. Et puis, je l'assume, c'est-à-dire que je l'accepte. C'est comme ça. Parfois, quand je sens que ça ne va pas, bah, je me dis...
T'acceptes.
Voilà, aujourd'hui, je ça me sens pas, comme une merde. J'ai du mal à me lever. Et ben, oui, il y a un épisode dépressif. C'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour... prendre soin de moi. Exactement.
Voilà, c'est ça.
Et j'ai des stratégies parce que du coup, avec l'expérience, ben, je me suis observée, je me suis analysée, donc je sais des choses que je peux faire ou pas. C'est vrai que, et ça c'est quelque chose dont tu parles en fait dans ton podcast, c'est qu'il y a un truc assez caractéristique des épisodes dépressifs, c'est les ruminations et les idées négatives.
Ouais.
Voilà, c'est toi tu donnes beaucoup de conseils là-dessus. Et c'est vrai que ça peut être un cercle vicieux, en fait, la dépression. C'est-à-dire, donc moi c'est vrai que je pense que j'ai complètement appris à sortir de ces trucs-là. Si j'ouvre, quand je me sens pas bien, si j'ouvre le frigo et que je me prends la bouteille de lait sur les pieds, je vais pas partir dans un truc de « mais je suis une merde, je n'arriverai à rien faire dans
ma vie. » Ouais, t'as réussi à prendre le recul, quoi.
Oui. Ça, c'est... Je me prends la bouteille de lait, je me dis « Oh, ma pauvre !»
C'est pas grave. Elle est tombée, quoi.
C'est pas grave. Jette les chaussons, laisse tomber le truc, tu reviendras plus tard nettoyer. Et c'est pas... je vais pas en faire... je vais pas en faire 6 caisses et 3 petits fûts, quoi. Donc ça, je pense que c'est quand même des choses qui ont...
Et c'est tellement important, c'est important, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec mon histoire de fatigue. J'ai senti que j'étais fatiguée parce que je mettais une trop grosse pression. Ça sert à quoi de forcer, en fait? Quand tu sens que tu forces, quel est l'intérêt, en fait? Puis du coup, tu te fais mal, tu dis pourquoi, et puis tu pars dans une sphère négative, et puis c'est fini, quoi. Alors que si t'as réussi... Mais après, c'est comme tu dis, hein, toi, tu connais tes stratégies. T'as des stratégies, tu te connais, donc tu sais anticiper, tu sais voir les situations, et puis t'as, comme tu dis, c'est toi. Donc, tu sais comment tu fonctionnes. C'est ça que je trouve beau, en fait, dans ton histoire. C'est que tu sais comment tu marches, en fait.
Ben, je pense, ouais, que j'ai beaucoup appris. Ben, je pense qu'en fait, on n'a pas le choix. Quand on a un problème de souffrance psychique, c'est la seule manière de s'en sortir. Mais donc, c'est vrai que je fonctionne avec un mélange de, je dirais, de compassion. Enfin, voilà, il y a ce truc du surmoi, là, du père fouettard qui est tout le temps en train de te dire « ça, c'est pas bien, faut pas faire ceci ». Donc, lui, je le recadre parce que je sais que dans un épisode dépressif, il va venir me pourrir la vie. Ouais. Et puis, en même temps, j'ai aussi une discipline d'enfer quand même. J'ai une hygiène de vie très stricte. Par exemple, sur mon sommeil, j'essaye de dormir beaucoup parce que je sais que j'ai besoin de dormir beaucoup.
T'as besoin de dormir.
Et je sais que chez moi, l'épuisement, ça me rend fragile et ça me rend, c'est en ça. Fait... enfin, voilà, après, je fais...
Bah, j'ai la même chose que toi. Hein. C'est comme je disais que mon sommeil, c'est comme moi, c'est comme toi. Si je sais que je n'ai pas dormi assez, je sais que je peux être plus fragile après.
Exactement. Donc, le sommeil, super important. Et puis, je fais énormément de sport aussi. En fait, c'est vrai que j'ai plus de traitement, mais le sport, c'est devenu... Bon, c'est... Parfois, je me dis, c'est quasiment un peu une addiction, mais disons que c'est mon traitement, c'est mon régulateur de l'humeur, en fait, le sport.
Mais c'est très bien. Mais c'est ton... Voilà, t'as pas besoin de ketchupine ou de je sais pas quoi. T'as ton régulateur d'humeur, c'est ton sport, quoi. Puis c'est tout.
Ben après, je sais que ça a ses limites aussi, mais ça, je sais que ça fonctionne quand même. Et si, donc, moi, je me force quand même à faire du sport, mais si je vais à la piscine et que normalement, je fais mes 60 longueurs, voilà, c'est quand même un peu... c'est très organisé.
Bravo madame, 60 longueurs, c'est super. Ben, si j'en fais deux, je suis contente.
Oui, mais c'est ça le truc, c'est que j'ai besoin de ça aussi. Mais maintenant, en fait, si j'en fais 20 et que, en fait, je suis épuisée, parce que c'est ça, la dépression aussi, parfois, physiquement, j'arrive pas à me bouger. Donc, si j'en ai fait 20 et j'ai tellement souffert, ben, maintenant, je suis capable de me dire aujourd'hui, ben, tu ne vas pas bien, t'as essayé, t'en as fait 20, c'est déjà bien, bravo, arrête, laisse tomber, va prendre une douche, rentre à la maison, et voilà.
Ah, super.
Et donc, c'est ça qui a changé. en fait. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense que je contrôle aussi la souffrance comme ça.
Ouais. Mais c'est très bien, tu te connais bien, hein. C'est super. Parce que souvent, c'est ce côté-là où on a peur d'apprendre à connaître cette partie de soi. Où c'est trop mystérieux, c'est trop sombre, c'est trop dark, et du coup, on n'apprend pas. Alors que du coup, finalement, le fait d'apprendre et de se connaître mieux, bah, c'est ce qui nous aide, en fait. Ok. Donc du coup, donc toi, tu comprends bien mieux ta dépression, toi, maintenant. Et pour la gérer au quotidien, tu as mis en place plein de choses, c'est super. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs qui souffrent de dépression?
Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Ça revient un peu à ce que j'ai dit tout le long sur sortir de l'approche de la pathologie, etc. C'est-à-dire, bah, oui et non. C'est-à-dire, en fait, évidemment qu'on peut... Parce que moi, tout ce que je t'ai décrit, j'ai mis énormément de temps, notamment parce que j'ai dû apprendre un peu tout toute seule. Mais donc, évidemment qu'il y a... Il y a des choses qu'on peut faire, enfin, notamment toute la question là, des ruminations, des idées négatives, ouais. Tout ça.
Mais il y a
Il y a un gros travail qu'on peut faire. Mais en fait, en réalité, il y a un gros travail qu'on peut faire sur tout. Donc en fait, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il n'y a pas une solution. Et la difficulté, c'est pour ça que justement, moi, je pense que ce que tu proposes, toi, en fait, ton travail de coach, je le trouve... extrêmement intéressant, et je pense que moi c'est ce qui m'aurait aidé en fait si ça avait existé quand j'avais 20 ans.
Mais
je vais t'expliquer pourquoi, parce que en fait souvent voilà le raisonnement c'est on cherche dans le DSM, donc c'est quoi le truc qui correspond un peu le mieux à ton tableau. Là ça marche plus ou moins en réalité, mais un peu au forceps on te met dans une case, et ensuite aux cases correspond un traitement. Et donc, ce traitement, que ça soit un traitement médicamenteux, que ça soit une thérapie, peu importe, c'est un peu le truc qu'on t'applique. Et donc, et pour moi, ça, c'est tout le problème de la démarche de la médicalisation et de la pathologisation. C'est-à-dire que, en fait, tu t'en sortiras pas de ta dépression, ou de quelle que soit ta souffrance psychique, moi, je pense qu'on ne s'en sort pas comme ça. Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder ses symptômes. Moi-même, j'ai fait énormément d'auto-analyse. Il faut absolument faire tout ce travail d'auto-analyse dont tu parles, etc. Mmh. C'est apprendre à se connaître, c'est extrêmement important.
À se connaître soi
absolument.
Et sa dépression.
Mais je veux dire, on n'est pas nos symptômes et nos problèmes ne s'arrêtent pas à nos symptômes. On est une personne.
Non.
Et donc, je pense que là où un coaching est vraiment intéressant, c'est que... Parce que le problème des thérapeutes, c'est qu'ils proposent un truc. Et en fait, ils te proposent leur méthode, finalement, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit une psychothérapie d'inspiration analytique, que ce soit une TCC, que ce soit des médicaments, machin. C'est-à-dire qu'on vous propose un truc, et puis c'est un peu l'idée que bah, c'est ça qui va marcher. Mais en réalité, ça ne marche pas comme ça, parce qu'on est une personne et les symptômes, c'est que déjà, ils sont complètement différents selon notre histoire, le moment dans lequel on est. C'est-à-dire qu'en plus, ça n'arrête pas d'évoluer.
Ah ben oui.
Et en fait, ce qui est important, c'est de trouver la combinaison de choses qui marchent pour nous. Et donc, ça veut dire déjà comprendre ce qu'on est en train de vivre et arriver aussi à savoir ce dont on a besoin. Et ça... Et notamment quand on va pas bien, c'est extrêmement difficile de se poser ces questions. Et c'est pour ça que je pense que quelqu'un comme toi, eh ben toi, tu vas être capable de prendre la personne là où elle est, au moment où elle est, et tu vas être capable de l'aider à faire ça. Et en fait, moi, je pense que c'est ça le plus important. Parce que après, dans le cadre de ce travail-là, ben, tu vas trouver, ben, moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et ça peut être une thérapie... Ça, il n'y a aucun problème. Moi, aujourd'hui, j'en fais une de thérapie. Mais pour être peut-être un peu plus concrète, tu vois, si je te dis ça, c'est que moi, quand j'ai été... quand j'ai été diagnostiquée, entre guillemets, direct, je me suis retrouvée...
Le mot entre guillemets, ouais. Attention.
Je me suis retrouvée direct. Bon, déjà, j'ai eu je ne sais pas combien de traitements que j'ai testés, machin, truc, bon, voilà... Aucun n'a jamais été vraiment très efficace, mais surtout, je me suis retrouvée chez le psy. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'aller chez le psy. Moi, j'ai appris des choses en allant chez le psy. Mais en fait, je pense que ce n'est pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Parce que moi, je me suis retrouvée chez le psy sans savoir, en fait, ce que je pouvais en attendre, ce que ça pouvait m'apporter. Et du coup, je pense que ça aurait été plus utile pour moi de pouvoir parler à quelqu'un comme toi qui m'aurait aidé, en fait, à mieux comprendre ce qui m'arrivait et à moi-même trouver ce dont j'avais besoin. Et ça, c'est quelque chose qui peut évoluer. Émilie Durand, dont je parlais un peu plus tôt dans son bouquin, elle raconte qu'à la fin, donc elle a eu toutes ses hospitalisations, etc. Et puis à la fin, elle raconte qu'elle commence à aller mieux quand elle commence à s'intéresser aux animaux et elle se prend une chienne. Et en fait, en contact avec sa chienne, là, elle commence à aller beaucoup mieux. J'ai une amie, par exemple, qui, donc c'est l'amie dont j'ai parlé avant aussi, qui a eu un parcours de dépression. Alors elle, je ne sais pas combien d'années de thérapie elle a fait. Et aujourd'hui, elle fait du yoga. Elle est même devenue prof de yoga. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est à chacun de trouver son chemin. Et c'est complexe. La souffrance psychique, c'est complexe. Ça ne se réduit pas à des étiquettes de DSM et à des traitements. Et donc, je ne suis pas sûre que de penser les choses en termes de pathologie et de diagnostic, ça soit forcément la meilleure manière de le faire. Je pense que parfois, ça peut être mieux d'avoir quelqu'un comme toi, par exemple, un coach, ou une autre personne, mais qui est capable, en fait, de t'aider à trouver ce dont tu as besoin. Parce que, en fait, c'est ça le plus important, d'arriver à trouver au moment T ce dont tu as besoin.
Bah, tu sais, ça, quand tu dis ça, c'est marrant parce que moi, j'ai eu besoin d'une ronron-thérapie. Du coup, mon petit chat.
D'accord.
Ma ronron-thérapie, c'était mon chat. Et je te dis, ça, c'est un truc qui m'impressionne. Il sait quand je suis pas bien. Et il vient me voir quand je suis pas bien. Quand je pleure, quand je suis pas bien, le chat, il est pas loin. Et ça, c'est impressionnant. On l'a eu tout petit, en fait. Donc, il a été, je pense, éduqué avec ma dépression. Et maintenant que je l'ai plus, mais j'ai toujours des phases où ça va pas, il est là. Tu vois, comme quoi... Et il est là et il me fait du bien et il se met contre moi, il ronronne et puis... Ben moi, ça m'apaise, quoi. Je me sens pas seule. Et il me comprend et puis il écoute, il racontera rien à mon mari, donc je raconte tout ce que j'ai tout ce que j'ai besoin de sortir. Je lui dis tout, il racontera à personne, donc il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est... Trouver son truc, c'est important. Trouver ce qui nous convient à nous, c'est ça qui est le plus important par rapport à notre personnalité. Hein. Franchement, merci beaucoup. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à l'entourage? Parce que... Ça aussi, c'est important.
Ouais. Comme j'ai parlé de mon frère, j'ai donc eu pas mal de personnes aussi dans mon entourage avec des souffrances psychiques assez aiguës. Et je pense que, en fait, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est ce que tu dis souvent dans ton podcast, il faut s'informer. Il faut vraiment prendre la peine d'essayer de comprendre ce qu'a la personne. Donc il faut s'informer, mais quand je dis s'informer, c'est pas forcément que des trucs médicaux. Ça peut être entendre d'autres personnes qui souffrent, qui ont ce problème, mais vraiment essayer d'aller chercher des informations. Je pense qu'il faut de la patience, parce que une personne qui est en état de souffrance, il faut avoir de l'ouverture d'esprit et de la patience. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi savoir poser des limites. Parce que, c'est pas parce qu'on souffre qu'on peut tout se permettre. Et donc, c'est très important. Et je pense aussi qu'il y a, moi en tout cas, c'est ce que j'ai appris, notamment par rapport à mon frère, et je l'ai appris par la manière dure, c'est qu'il faut accepter son impuissance aussi. Et je pense que c'est ça qui est très très dur quand on a quelqu'un de proche qui souffre. C'est d'accepter qu'on ne peut pas faire les choses à sa place, qu'on ne sait pas ce dont elle a besoin, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut le savoir, et que donc parfois, on est condamné à la regarder aller mal, et qu'on n'est pas forcément la personne la meilleure placée aussi pour l'aider. Et donc je pense que ce qui est très important, et moi c'est probablement ce que j'ai pas su faire, c'est un, de se faire aider, parce que, et voilà, toi tu proposes du coaching par rapport à ça aussi, et je pense que c'est très important, parce que en fait, aider quelqu'un qui va mal, c'est extrêmement difficile, et donc il faut être soutenu. Et aussi, je pense avoir à l'esprit que la personne en souffrance, le proche ou la proche, essayer un peu de jouer ce rôle de coach dont je te parlais, c'est-à-dire aussi essayer dans la mesure du possible de l'encourager à trouver l'aide dont elle peut avoir besoin. Ouais. Mais je pense qu'il faut vraiment sortir du face-face, parce qu'on n'est pas forcément la meilleure personne pour aider, notamment son proche, parce qu'en plus, il y a trop d'enjeux et ça peut être très compliqué.
Ouais. C'est très dangereux, hein, c'est très dangereux, peut-être le mot est un peu fort, mais il faut faire attention. Vraiment, quand on aide un dépressif, faut faire attention sur nos mots, surtout. Donc, du coup, voilà, on n'est pas forcément la personne adaptée pour. Enfin, on aide, les proches sont là pour aider, mais il y a un rôle à ne pas. Enfin, je veux dire, il y a une limite à ne pas dépasser sur l'aide qu'on veut apporter en tant que proche. Voilà, parce que on est fatigué, ça fatigue aussi, et on a nos émotions, on a aussi les moments difficiles, et quand on est face à quelqu'un qui est négatif, triste, pour des raisons qui sont très complexe. Montrer, rappeler à la personne que l'on aime, c'est bien plus fort que d'essayer d'aller régler son problème, quoi. Parce que chacun doit régler ses propres problèmes. Même le dépressif, même si c'est dur pour lui, il faut qu'il règle ses difficultés, quoi.
Mais et en fait, il n'y a que la personne qui souffre qui peut faire quelque chose pour elle-même.
C'est ça.
Parce que personne d'autre ne peut vivre les choses à sa place.
Non, mais tu as bien raison. C'est vraiment important de rappeler tout ça. Mais écoute, merci beaucoup Marianne, ça a été un plaisir sincèrement d'échanger avec toi, d'avoir ton point de vue. Comme tu l'as dit, hein, le podcast il est là pour qu'on puisse raconter sa dépression, donc merci d'avoir raconté la tienne. Et puis pour les auditeurs, je vous dis à bientôt.
Merci à toi Marianne, tu peux pas savoir à quel point ça a été un plaisir, même un honneur pour moi de passer ces quelques instants avec toi. J'ai vraiment été éblouie par ton histoire et la façon dont tu racontes ta dépression. Merci encore à toi. Si vous aussi vous souhaitez participer au podcast Raconte-moi ta dépression en racontant tout simplement la vôtre, eh bien vous pouvez le faire. Bien sûr, le but de ce podcast est de partager des histoires de personnes et puis de pouvoir avancer encore et encore et s'encourager. Donc si vous souhaitez me raconter votre histoire, eh bien envoyez-moi tout simplement un petit email à l'adresse contact@magdelipression.com. En tout cas, comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi d'enregistrer cet épisode de podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !